Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
Les couilles sur la table, épisode 5. Colline Grandeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une jeune réalisatrice française, vous vivez à Bruxelles et vous venez de réaliser un beau documentaire sur la place des hommes. La place des hommes dans une grossesse non prévue. Pendant une heure, on écoute et on regarde 5 hommes nous raconter leur histoire, leur ressenti face caméra. C'est très simple et très puissant à la fois. On espère que le film va vite sortir en France. Pour l'instant, il n'est diffusé qu'en Belgique, mais on va avoir la chance dans ce podcast de pouvoir en écouter plusieurs extraits. Dans ce film, vous vous posez la question de la place de l'homme face à une grossesse non prévue, quelle que soit la manière dont elle se termine, d'ailleurs par une naissance, une fausse couche ou un avortement. Pour situer le problème, déjà combien d'hommes est-ce que cette situation concerne chaque année ? Est-ce qu'on a une idée ?
Donc en France, il y a 200 000 avortements à peu près. Du coup, on peut supposer que ça concerne 200 000 hommes, enfin voilà, au maximum.
Donc c'est votre premier film. Pourquoi est-ce que vous avez voulu donner la parole aux hommes ? Parce qu'on n'entend que des hommes, à part vos questions pendant le film. Pourquoi est-ce que vous avez voulu donner la parole aux hommes sur ce sujet ? Est-ce que, comme on dit dans les milieux féministes, normalement, c'est pas d'utérus, pas d'opinion, non, sur un sujet pareil ?
Mais ça s'est fait progressivement. En fait, au début, je me suis intéressée aux femmes. Et puis, un peu par hasard, j'ai rencontré un garçon à qui je parlais de ce projet de film sur l'avortement. Et il m'a dit « Ah, c'est chouette, moi, avec ma copine, il s'est passé ça. » Et il me raconte son histoire, qui n'était pas du tout une histoire traumatisante ou traumatique, qui était plutôt quelque chose qu'il avait vécu, comme quelque chose qu'il avait fait progresser et quelque chose qu'ils avaient vraiment vécu à deux. Du coup, je me suis dit, tiens, son point de vue est intéressant, voilà, ce qu'il me raconte est intéressant. Et en plus, en fait, les hommes, on ne les questionne jamais sur ces choses-là, les grossesses non prévues, alors que potentiellement, ça veut dire qu'ils vont devenir papa, donc qui ont un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, tout ça me questionnait. Du coup, j'ai interrogé des hommes et les femmes en parallèle pour finalement me concentrer que sur les hommes. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu, moi. Je n'ai pas vécu d'avortement moi-même. Et je pense que j'avais finalement peu de choses à apporter, moi, sur la problématique par rapport aux femmes. Alors que les relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui me questionne personnellement, dans mon travail, et je trouvais que c'est un moment qui cristallise plein de choses, en fait, dans ces relations-là. Donc je trouvais ça intéressant d'explorer ça. Déjà, je pense que c'était très important pour moi, et c'était un des gros enjeux du film, justement, de parler d'expérience et de ressenti, et pas d'opinion sur l'avortement, parce que c'est pas n'importe quel homme, voilà, c'est des hommes qui l'ont vécu, et tout le travail de montage a été aussi d'extraire et de garder uniquement ce ressenti.
Je propose qu'on écoute le premier extrait, qu'on en parle après.
C'est un peu comme si t'es en état de choc, surtout à cet âge-là, quand tu l'as jamais envisagé, quoi. C'est, t'apprends un truc auquel tu... Oui, on t'en a parlé, en théorie, oui. C'est possible, tu vois. Mais en pratique, c'était inenvisageable complètement que ça arrive un jour. Et donc j'étais hyper heureux et en même temps... Je savais pas du tout comment gérer la chose, quoi.
T'étais hyper heureux ?
Bah, il y a quelque chose de t'aimes quelqu'un et t'as plein de moments intimes avec, et en fait ça finit par créer quelque chose, tu vois, ça finit par créer la vie. Bon, tu la constates pas sur le moment, mais tu te dis, je sais pas, il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, quoi.
Ce premier extrait, en fait, moi, c'est, je crois que c'est un des premiers constats que j'ai fait en commençant à interroger des hommes sur la problématique, et qui m'a complètement sidérée. C'est que donc là Benjamin nous dit qu'il dit
à cet âge-là, quand on l'a jamais envisagé.
Voilà, et ça pour moi c'est très très frappant, parce que qu'à une vingtaine d'années, alors qu'il a des relations sexuelles depuis déjà plusieurs années, 4, 5, 6, il ne l'ait jamais envisagé. Enfin, j'ai l'impression que là il y a une grosse différence entre les filles et les garçons dans la manière dont on nous présente les choses et dont on nous parle de ça, parce que moi j'ai l'impression que depuis l'âge de 12 ans, on me prépare à cette éventualité-là, alors que eux, quand ça leur arrive, ça leur... Ils tombent des nues, littéralement.
Et en même temps, il dit cette phrase un peu touchante, là, de « c'est un peu magique ». Ça, c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans les conversations que vous avez eues avec les hommes ?
Oui, il y a toujours ce... Donc, il y a cette petite claque. On s'y attend pas, voilà. Et il y a ce petit moment de « mais en fait, voilà, je suis amoureux et de cet amour naît quelque chose ». Et bon, pas chez tous, hein, du tout, mais oui, je pense que ça fait partie, enfin, ça marque l'histoire d'amour d'une manière ou d'une autre, pas forcément négativement d'ailleurs. Il y a des couples que ça soude, un avortement, parce que quand on se rend compte qu'on est à deux, qu'on prend la décision à deux, qu'on se dit c'est pas maintenant, mais peut-être que dans un avenir plus proche, voilà. Enfin, il y a des. En fait, c'est. Une grossesse non prévue, c'est un moment de crise dans le couple. C'est-à-dire que. L'individu au sein du couple doit remettre en perspective ses désirs à lui par rapport au projet du couple. Et donc, parfois, ça fait imploser le couple. En tout cas, ça précipite des choses qui, finalement, sont là en germe. Et parfois, ça soude parce qu'on se rend compte qu'on va dans la même direction et qu'on a envie des mêmes choses.
Comment vous avez fait pour rencontrer les hommes que vous mettez dans le documentaire ?
Donc, ça a été très difficile. J'ai commencé par des amis et des connaissances. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'élargir. Et je crois que j'ai à peu près tout essayé. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché à part le bouche-à-oreille. Donc, c'est-à-dire les amis d'amis, les amis d'amis d'amis. Les réseaux sociaux, pour ça, ont été quand même très, très utiles.
Mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu plus de difficultés à recruter, je ne sais pas si on dit recruter, mais à trouver des personnes, des hommes, pour parler de ce sujet que pour parler d'autres sujets, même intimes ?
Oui, parce qu'en fait, ils ne se sentent pas légitimes à parler de ça. Enfin, on les sollicite jamais pour parler de ces questions-là. Et du coup, tous les garçons que j'ai rencontrés qui ont bien voulu accepter de parler, ils étaient d'abord hyper surpris que je les interroge sur cette question-là. D'abord, je pense, parce qu'ils ont l'impression que je leur demande de parler de l'expérience du corps de quelqu'un d'autre. Or, c'est pas du tout ça que ma démarche. Ma démarche, c'était de leur demander, toi, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? À quoi t'as pensé ? Comment vous avez vécu la chose ? Ensemble, pas ensemble ? Enfin, voilà. Quelle a été ta position par rapport à ça ? Et donc, c'était... Et en plus de ça, c'est une parole qui ne circule pas. Les hommes n'en parlent pas entre eux. Ils ont pas vraiment de lieu non plus pour en parler. Parce que voilà, les centres de planning, on a un peu cette image que c'est plutôt pour les femmes, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, la plupart du temps, les hommes sont bienvenus dans les centres de planning, mais voilà, ils ont l'impression de pas avoir d'interlocuteur en fait, et généralement ils gardent ça pour eux, et c'est parfois ça qui crée la douleur, je pense, de pas pouvoir le partager.
Mais peut-être qu'ils s'en fichent certains, non ?
Mais j'en ai pas rencontré beaucoup qui s'en fichaient totalement. Vraiment. Enfin, après, je pense que effectivement, c'est le cas. Après, enfin, c'est toujours pareil. Les hommes qui ont accepté de me parler, j'ai pas rencontré n'importe qui. C'était déjà des hommes qui voulaient bien me rencontrer pour parler de ça. Donc, ça limite déjà. Mais de ceux qui ont bien voulu me parler, en tout cas, non, ça n'a pas été une expérience qui les a laissés indifférents. Ça n'a pas forcément été une expérience traumatisante. Mais en tout cas, ça a eu un impact soit sur leur manière de voir la vie, soit sur leur manière de voir leur couple. Enfin, voilà, ça a eu un impact quelque part, quoi.
Et c'est cet impact-là que vous interrogez. On écoute le deuxième extrait.
Quand elle m'a annoncé qu'elle était tombée enceinte, ça faisait déjà 2 mois, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, c'était bizarre, je veux dire. C'était pas...
Donc ça faisait déjà 2 mois de grossesse ?
Oui.
D'accord. Donc tu penses qu'elle te l'a pas dit tout de suite ?
Ou qu'elle n'a pas été au courant ? Ou qu'elle a négligé, ou que peut-être elle a eu des règles de stress, ou... Je sais pas, j'ai pas le corps d'une femme, donc je sais pas comment ça se passe là-dedans. Mais voilà, moi, pour ma part, quand elle m'a annoncé ça, je veux dire, ça m'a frappé, quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deuxième extrait ? Il sait pas, il dit cette phrase, je sais pas comment ça se passe là-dedans.
Bah, on voit que... Le corps de la femme reste un peu un mystère, comme ça, un espèce de temple impénétrable où finalement les garçons sont complètement extérieurs et ils savent qu'ils n'auront ni la connaissance ni la légitimité. Et du coup, ils restent. Voilà, c'est un peu.
Mais c'est d'ignorance aussi beaucoup.
Bah
parce
oui, complètement.
Que,
complètement de l'ignorance.
C'est pas impossible de savoir en fait. C'est juste qu'ils ignorent et manifestement, il n'y a pas de désir de savoir exactement comment ça se passe. C'est une affaire de femme en fait. Il contribue à la grossesse, enfin on tombe pas, sauf pour la Vierge Marie évidemment, mais sinon on tombe pas enceinte sans intervention extérieure. Et en l'occurrence, le plus souvent, d'un homme qui participe à l'opération, qui y contribue. Donc c'est vrai que c'est quand même curieux cette...
Mais il y a une vraie dissociation entre la relation sexuelle et le fait de tomber enceinte dans leur tête. Et ça se voit et ça se joue. Dans leur rapport à la contraception, en fait. Ils sont déresponsabilisés de la contraception. Donc, c'est établi dans notre société que c'est une affaire de femme, parce que c'est le corps de la femme. Et du coup, eux doivent se protéger, grosso modo, des maladies en mettant une capote s'ils connaissent pas bien leur partenaire. Et puis ensuite, dès qu'il y a une relation un peu suivie, alors c'est à elle de s'en charger. Donc elle prend la pilule, l'anneau, le stérilet, que sais-je. Et en fait, y a comme... une espèce de barrière ou de fossé entre ce moment-là et ce qui se passe après, quoi.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Est-ce que vous avez creusé, vous, cette idée ou peut-être c'est pas votre...
J'ai creusé de manière, je pense, un peu personnelle parce que, voilà, ce film, évidemment, m'a fait réfléchir à plein de choses, mais j'ai l'impression que... On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes que, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment que mon opinion, qu'on leur dit « c'est pas votre problème » et que, du coup, toute la responsabilité... de la contraception et d'une grossesse non prévue, si elle advient, repose sur les épaules de la femme. Voilà. Et
alors qu'en fait, la responsabilité devrait être partagée, bah, au minimum.
En tout cas, je pense qu'on est un certain nombre de femmes à se dire que ça serait plus agréable que ça soit partagé. Parce que c'est aussi... Bon, bien sûr que décider d'avoir un enfant ou pas, c'est un pouvoir. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Et je pense que de la partager à deux, il y a plein de couples qui aimeraient l'envisager.
On écoute le troisième. Donc là, on va parler de la responsabilité.
Pour une fois, il y avait quelque chose en face de moi qui était « Ok, j'ai une décision à prendre, je l'ai pris. » J'ai pris cette décision. Mais cette décision, elle implique quelqu'un. En fait, elle implique au moins 2 personnes. Une troisième, certainement. Mais là, tout de suite, cette décision implique 2 personnes. Et c'est la première fois que c'est une décision qui engage à vie. Et cette décision que moi, j'ai prise, la seule personne avec qui j'ai à dealer avec ça, elle n'avait pas de mon avis. Et puis, elle est même contre mon avis. Du coup, c'est toujours eu tendance à aimer gérer les choses. Et là, d'un coup, d'un seul, je gère plus rien.
Donc là, on tombe sur la question du contrôle, du pouvoir, de la responsabilité. Il dit gérer les choses, ne pas gérer les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce problème-là qui soulève ? C'est-à-dire que l'homme, est à la fois, il a contribué à la situation Et en même temps, in fine, évidemment, c'est pas lui qui a le dernier mot. Donc,
Et c'est bien normal qu'il ne l'ait pas, parce que la grossesse se passe dans le corps de la femme, et que voilà, enfin, loi ou pas loi, c'est elle qui décide. Que, enfin, si quelqu'un d'autre décide pour mon corps, alors ça veut dire que je suis une enfant, en fait, que je suis pas une adulte à part entière qui prend les décisions pour moi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que, enfin, voilà, dans lequel je suis convaincue et que le film défend. Mais à côté de ça, je pense que oui, c'est très très violent pour un homme de devenir père alors qu'il l'a pas décidé. Mais alors, que faire? Eh ben, je pense que
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pas la solution, mais en tout cas, la chose dont peut-être les hommes devraient vraiment prendre conscience, c'est que le vrai moment de choix qu'ils ont, c'est au moment du rapport sexuel, en fait. C'est le seul moment. Parce qu'après, ils n'auront plus le choix, ça appartient au corps de la femme. Et donc, il faut bien se rendre compte que quand on fait l'amour à quelqu'un, sans qu'il y ait de protection,
Ou sans s'être préoccupé de la contraception, etc.
Eh bien, on donne quelque chose, on donne son sperme, et que à partir du moment où c'est dans le corps de la femme, donner c'est donner et reprendre c'est voler.
Il y a une expression très courante quand même pour parler des paternités qui n'ont pas été décidées, c'est le fait de se faire faire un enfant dans le dos.
En fait, c'est comme si on essayait de montrer le danger à ce que la femme ait du pouvoir. Enfin, le danger de ce pouvoir qu'aurait la femme. Et en fait, c'est, je pense, effectivement, oublier que quand on fait un enfant, on est deux. Et que pour moi, tout le travail de ce film, c'est de se rendre compte, de reconnecter les choses, en fait, entre l'acte et la grossesse pour les hommes.
C'est un sujet qui est tellement difficile encore aujourd'hui. L'avortement, c'est quand même un droit qui est remis en question, qui est fragile, etc. Donc, est-ce que c'est rendre un bon service quand on est féministe que de laisser des hommes s'exprimer sur le sujet ?
Bah, c'était une vraie question pour moi tout au long de ce travail, parce que effectivement, moi, j'ai commencé à travailler sur ce film. Il y avait les événements en Espagne. Et puis ensuite, il y a eu la Pologne. Et puis voilà. Et puis un peu partout en Europe, tout d'un coup, il y avait une remise en cause de ce droit. Et à plusieurs moments, je me suis demandé, mais est-ce que t'es pas en train d'encourager quelque chose que tu défends pas ? Et en fait, je pense que non. Enfin, je pense que c'est important de parler de la place des hommes. Enfin, on pourra rien changer tant que on a. Quelque part, on ne questionnera pas cette place-là aussi, parce que c'est interdépendant, nos deux places. On aura beau changer la place des femmes si les hommes ne bougent pas. Et c'est vraiment... Voilà, moi, c'est ça que je défends en leur donnant la parole. Sachant encore une fois que je ne leur donne pas la parole pour qu'ils disent une opinion ou pour qu'ils aient un contrôle sur l'événement, mais pour qu'ils puissent exprimer un ressenti et justement de quelle est leur place pour eux, comment ils se sentent eux, et qu'est-ce que nous, les femmes, on attend d'eux. Et donc c'est tout ça que je questionne, et j'ai l'impression aussi que c'est important pour moi que le discours féministe, ou en tout cas les positions féministes, soient aussi audibles par les hommes, et que on ne reste pas dans ça ne regarde que les femmes et on reste entre femmes, enfin, parce que moi personnellement je préférerais ne pas supporter la contraception toute seule, par exemple. Où j'envisage que d'avoir un enfant, c'est un projet que j'ai envie de faire à deux. C'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Et là encore, on n'est pas les femmes, individuellement, on n'est pas obligé de donner une place à l'homme. Mais je trouve ça important que eux puissent la prendre et de pas être juste passif devant cet événement-là.
Oui, comme si c'était pas leur problème, comme s'ils y étaient pour rien, comme s'ils sortaient avec la Vierge Marie, quoi. On écoute le quatrième,
ouais.
Qui est un peu plus âgé que les autres. En fait, c'est le seul personnage qui va être père à la fin. C'est ça ?
Qui est père.
Je crois que j'ai vraiment... j'ai un peu honte de dire ça, mais envisager toutes les solutions, y compris celle de fuir, je veux dire. Qui est la solution qui a été l'usage masculin pendant des siècles. Hein. Nous avions ce grand privilège autrefois, Jean-Jacques Rousseau, enfin, des grands noms, de tourner les talons et d'abandonner les enfants. C'est peut-être... aujourd'hui, non. Quand même assez difficilement, enfin... Mais j'ai même pensé à ça, oui. Et comme c'était pas du tout envisageable, oui. Non, je lui ai dit que, oui, j'arrivais. Que je voulais participer à l'échographie. Donc j'ai participé à l'échographie. Et pendant toute une période, ça a été une relation assez froide entre nous. Ça a été dur. J'avais une très grosse mauvaise conscience. Et les premiers temps de à s'organiser autour de cet enfant étaient assez compliqués. Et puis voilà.
On a pensé que c'était bien de mettre cet extrait-là parce qu'il le replace dans une perspective historique, ce que les autres ne font pas du tout. Pourquoi vous aimez, vous, cet extrait ?
Parce que, bon, déjà, je pense qu'il fait preuve d'un aveu de faiblesse que c'est assez touchant et que je pense que voilà, je pense que les cinq qui sont dans le film, ils avaient une nécessité personnelle et interne à raconter cette histoire-là et que du coup c'est un peu comme si eux m'avaient choisi pour porter leur histoire et je pense que c'est pour ça que ça marche et que les récits sont forts et que malgré que ce soit que des entretiens face caméra, et ben, on tient les 1 heure. Et par rapport à la position de l'homme dans notre société qui est quand même en train d'évoluer, et je pense que c'est plutôt chouette comme constat. Mais déjà, je sais pas depuis quand exactement, mais ce qui se passe par rapport à la loi, c'est que une femme qui tombe enceinte peut exiger un test de paternité d'un homme, donc il peut pas s'y soustraire. Et s'il est reconnu comme père, elle peut lui demander une pension alimentaire jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Bon, il y a peu d'hommes qui le savent, et il y a peu de femmes aussi. Mais voilà, il y a cette injonction de la loi qui maintenant dit au géniteur, tu dois assumer. Et je pense que c'est légitime dans le sens où le public ou la population le plus précaire dans nos sociétés, c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et que remettre en cause cette implication du père, donc lui donner la possibilité de se barrer et de plus jamais revenir, la conséquence, c'est que ça peut jouer sur la décision ou pas d'interrompre une grossesse. Voilà. Et donc, je pense que ça protège un public très précaire.
Dernier extrait. Donc là, c'est le cinquième personnage qui raconte comment ça s'est passé quand il est allé au planning, ce qu'il voit. Il dit que c'est un bâtiment assez moche, il n'aime pas, il ne se sent pas à l'aise, il ne se sent pas bien. Et puis, il dit ça.
Personne ne m'a demandé à moi, tu vois. Est-ce que cette nana, elle n'est pas en train de te forcer à perdre ton gosse ? Non, personne ne m'a demandé. Tu te rends compte comme c'est absurde ? Je ne sais pas si...
Bah, étant donné que c'est le droit de la femme de disposer de son corps... Ça me paraît légitime qu'elle t'ait pas posé la question.
Ok.
Voilà, lui, il se plaint qu'on lui ait pas demandé si ça allait, qu'il ait pas trouvé sa bonne place au planning et qu'on n'ait pas fait attention à lui. Et c'est vrai qu'il y avait un écueil possible, c'était de tomber dans une victimisation des hommes, de dire « Ah bah, les pauvres !» Mais c'est pas du tout ce que vous faites dans votre film. Vous, c'était un écueil que vous aviez en tête ?
Oui, bien sûr. C'est vraiment une place ambiguë, la place de l'homme. Et je pense que c'est pour ça que c'était intéressant de soulever la question, même si c'est pas facile, parce que il faut pas remettre en cause le droit de la femme à disposer de son corps. Mais pour autant, il y a l'autre qui est là à côté. Et par exemple, pour les centres de planning, c'est une position très compliquée pour eux. Comment est-ce qu'on reçoit l'homme ? C'est la femme la patiente. Il y a un truc de l'ordre du médical où on se dit c'est dans le corps de la femme et alors c'est elle que ça concerne, point barre. Et pourtant, c'est aussi un événement qui concerne le couple, quand il y a couple, ce qui n'est pas forcément le cas, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de celui qui est là, qui va attendre dans la salle d'attente, qui va être concerné. Pendant un entretien avant un avortement, on parle de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé dans la contraception. On parle de la contraception à venir pour éviter que l'accident se reproduise. Et moi, j'ai l'impression que l'homme a quelque chose, comme on disait, une part de responsabilité là-dedans. Donc, pour les centres de planning, c'est très compliqué de se dire... est-ce qu'on amène l'homme dans l'entretien ? Parce qu'effectivement, pour cette partie-là, il est concerné et il doit aussi se sentir concerné. Et en même temps, il y a toujours cette peur de l'homme qui est l'oppresseur, qui est celui qui essaye d'imposer une influence sur le choix de la femme. Et voilà. Et je pense que les centres de planning font ce qu'ils peuvent. Donc, certains centres ont tranché la question et disent « voilà ». Pas d'hommes, et d'autres essayent de l'inclure au processus. Et d'autres, c'est vraiment une réflexion d'équipe de se dire comment on accueille un couple qui vient. Et sachant que ça a d'office des répercussions sur la patiente aussi.
Et donc finalement, quelle est la place de l'homme ?
Pour moi, elle est dans la parole en fait. Et elle ne peut être que dans la parole. Parce qu'elle ne peut pas avoir de pouvoir de décision. Et je pense que, par contre, dans les discussions et dans l'expression d'un ressenti, ça peut aider une femme à ne pas ressentir toute la culpabilité de cette décision qui n'est pas forcément facile à prendre, on est encore dans une société où avorter, c'est encore une honte. Chez les hommes comme chez les femmes, on n'en parle pas. Ça concerne une femme sur trois en France. C'est énorme. Enfin, on est tous concernés, on l'a tous été personnellement, ou on connaît tous des gens, et pourtant, c'est quelque chose qu'on ne partage pas. Et donc, je pense que, d'autant plus, la place de l'homme, elle est dans la parole. Et je pense qu'au-delà de l'avortement, si les hommes se transmettaient plus leur expérience et leur ressenti sur des questions autour de la paternité... Tout le monde se porterait mieux et les couples vivraient mieux ce genre de d'événements imprévus.
Quelle place ils devraient avoir selon vous ?
Mais moi, je pense que il y a pas une place en général à avoir. C'est chaque individu par rapport à son histoire, par rapport à son histoire d'amour ou à son histoire de sexe, doit se positionner et réfléchir. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une réflexion et une pensée autour de ça. Pour que ça se passe au mieux, en fait.
Qu'est-ce que vous, ça vous a appris personnellement de faire ce film ? Est-ce que ça a changé la manière dont vous voyez les hommes ?
Je ne sais pas si ça a vraiment changé. Mais moi, ça m'a fait du bien d'entendre des hommes me parler de sentiments et d'émotions et de ressentis. En fait, je crois qu'un des désirs de faire ce film, c'était beaucoup de questionner les hommes par rapport à un désir ou un non-désir de paternité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me manquait. J'entendais trop peu d'hommes me parler de ça. Et moi, en tant que femme, j'avais envie de l'entendre. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour eux. Et est-ce que c'est une peur ? Est-ce que c'est une envie ? Et quand il y a refus, pourquoi ? Tout ça, c'est des questions, je pense, qui m'animaient personnellement et dont j'avais envie de... d'entendre.
Pour terminer, Colline Grandeau, est-ce que vous avez une œuvre à nous recommander ?
Moi, le film qui m'a vraiment marqué ces deux dernières années et qui m'a fait réfléchir, pas spécifiquement sur la place des hommes, mais qui me semble assez important de voir aujourd'hui, c'est Ouvrir la voie de Amandine Gay. Moi, ça m'a vraiment appris des choses sur moi et sur mes représentations et sur les clichés qu'on véhicule et qu'on continue de transmettre alors que... alors que pourtant on a une conscience féministe ou quoi que ce soit. Enfin voilà, donc je trouve que c'est vraiment un super beau film d'entretien face caméra de femmes noires qui racontent qu'est-ce que c'est d'être une femme noire.
Ouais, c'est un très très beau film. Il est pas beaucoup distribué malheureusement, mais c'est vrai que ça vaut vraiment la peine de le voir. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. On entend des choses qu'on a jamais entendues en fait dans ce film-là. Merci beaucoup, Colline Grandeau.
Merci à vous.
Eh bien, c'était le 5e épisode des Couilles sur la table avec la réalisatrice Colline Grandeau. Vous retrouvez toutes les références des œuvres, et des dates, etc. Sur le site de Binge Audio, donc sur binge.audio. Si vous avez aimé ce podcast, cet épisode, que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Je lis tout ce qu'on m'écrit et je tente de répondre. Si vous avez des questions et des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Voilà, et bien bisous et à bientôt.
Binge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.